EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, ce programme a été conçu pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples. J'ai comme envie de vous demander, quelle est la réponse à la question d'hier? On voulait savoir combien des paraboles Jésus a-t-il réellement dit? Écrivez votre réponse. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est apprendre les principes fondamentaux pour interpréter une parabole. On va commencer déjà par quatre principes qui vont vous permettre de, lorsque vous êtes en face d'une parabole, de ne pas vous embrouiller et de comprendre très bien de quoi Jésus voulait réellement parler. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque vous commencez devant une parabole, la première des choses à faire, c'est chercher l'interprétation simple de la parabole. Il y a une interprétation très simple de la parabole. N'essayez pas de vous compliquer la vie. La parabole est une histoire. Donc, il y a une interprétation très, très simple. Soyez le plus simple que possible. N'allez pas derrière des petits détails. Alors, un jour, quelqu'un m'a demandé, la gibecière dans laquelle le sac. Il dit, le sac dans lequel le semeur mettait ses semences. C'est quoi? Ça signifie quoi? J'ai dit, Jésus n'en a même pas fait mention. Peut-être que lui, il a vu ça dans un dessin. Jésus n'a même pas fait mention dans quel type de sac il avait placé la sémence pour commencer à jeter. Ne vous rendez pas la tâche difficile. Les paraboles sont des fois simples. Cherchez d'abord l'explication la plus simple, l'interprétation la plus simple, qui simplifie, qui donne l'idée générale des choses. Je vais vous lire la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. Et suivez bien, Matthieu 13, 3 à 9. « Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle éleva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » C'est une parabole. Jésus finit comme ça. Quand lui finit de parler, c'est terminé. Le peuple l'entend, il s'est dit, mais ça veut dire quoi? Même passage, toujours à Matthieu chapitre 13, à partir de verset 18, il s'en va maintenant expliquer cela aux disciples. On sait que le tableau est un tableau de quoi? C'est fait de beaucoup de choses là. Il y a des sémences et des terres. Mais écoutez comment Jésus va se mettre à expliquer tout ça. Écoutez. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ah, donc la terre, le long du chemin, c'est un homme. Et la chose qui est la sémence là, c'est la parole du royaume. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas des racines en lui, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ne cherchez pas à comprendre 30, 60 et 100. Ce sont des chiffres. Non, c'est très simple. Jésus est en train d'expliquer lui-même sa propre parabole, mais il ne remplace pas 60 par autre chose. Il ne remplace pas 100 par autre chose. Il ne remplace pas 30 par autre chose. C'est juste une façon de démontrer que chacun a eu des résultats différents à des niveaux différents. La parabole est d'abord fondamentalement simple. Ne cherchez pas trop spiritualiser les choses. Cherchez d'abord l'explication la plus simple. Deuxième chose, si vous voulez interpréter une parabole, étudiez le contexte immédiat de la parabole. Étudiez le contexte immédiat, c'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé Jésus à dire cette parabole, ce qu'on appelle un contexte immédiat. La plupart des contextes de Jésus, des paraboles de Jésus sont motivés par une raison. Quelqu'un lui a posé une question, il était sur le point d'enseigner une chose, il veut ajouter ce qu'il avait dit, il veut amplifier une idée. Il y a généralement un contexte immédiat. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à dire cette parabole? Cette parabole succède quoi ou cette parabole précède quoi? Qu'est-ce que Jésus se préparait à enseigner à travers la parabole? Ou qu'est-ce que Jésus renforçait comme enseignement à travers la parabole? Ou pourquoi Jésus a utilisé cette parabole pour répondre à quelle question il est en train de répondre? Et c'est aussi une façon de dire, Jésus ici, il est en train de parler à qui en réalité? Qui sont ses premiers interlocuteurs? Si vous savez le contexte ici, ça veut aussi dire à qui Jésus parle. Quand il lance cette parabole, c'est aux pharisiens qu'il parle, c'est aux sadducéens, aux scribes, c'est au peuple qu'il est en train de parler. C'est ça ce qu'on appelle le contexte immédiat ici. Je vous donne un texte. Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Luc 15, 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Vous voyez? Dans quel contexte Jésus va dire cette parabole? Le contexte où? Puisque Jésus fréquente des personnes qui sont connues dans la société comme étant de mauvaise vie, de qui on parle, publicains et gens de mauvaise vie. Alors, entre nous, vers qui devons-nous aller pour apporter la bonne nouvelle si ce n'est pas de gens de mauvaise vie? Jésus donc est avec des publicains, des gens de mauvaise vie pour leur apporter la bonne nouvelle et les pharisiens, les scribes qui, eux, considérant ayant une bonne nouvelle, s'est dit, si cet homme est un enseignant de la vérité, il ne doit pas être avec eux. Ils murmuraient. Et la Bible dit, mais il leur dit cette parabole. Jésus veut maintenant expliquer ça. Il veut s'exprimer dans cette circonstance. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais ma brebis qui était perdue. » De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bizarre, hein? Jésus dit dans cette parabole quelque chose de très frappant. Il ne dit pas lequel de vous, s'il a des brebis à la maison, ne va-t-il pas aller chercher un chacal qu'il a perdu? Non. Il dit pour le Père, ceux qui sont à la maison, ce que j'ai maintenant et ce qui sont perdus sont tous des brebis. Vous voyez ce que ça veut dire? Pour le berger, il s'agit des brebis. Nous, de fond, nous, on a donné notre vie au Seigneur, ceux-là ne sont pas. Mais pour le Créateur, il s'agit de toute sa création. Il s'agit de ses enfants. Si ces brebis-là ne vivent pas finalement dans la bergerie, c'est parce qu'ils ont refusé de rentrer. Mais le Père le voit comme des brebis qu'il faut récupérer. Et Jésus dit, lequel de vous ne va pas courir pour sa brebis? Il ne regarde même pas les 99 autres. Et quand il a récupéré celle-là, il appelle les voisins et dit, voilà, j'ai récupéré ma brebis. Le contexte dans lequel Jésus donne cette parabole, c'est le contexte où il est en train d'expliquer aux pharisiens, aux scribes, que ce que eux ils appellent des gens de mauvaise vie et des publicains sont de brebis qu'il faut aller chercher là où ils sont. Et lorsqu'on le ramène à la maison, il y a une grande joie à la maison. Je suis donc en train de chercher. Je ne suis plus à l'intérieur de la maison là-bas avec les brebis en sécurité. Je suis sorti pour aller chercher ceux qui sont perdus. Au moment où vous me voyez avec ces gens perdus, oui, c'est parce que je suis venu chercher les perdus. Le contexte immédiat qui a fait naître cette parabole vous permet de mieux la comprendre. Vous voulez bien interpréter une parabole? Troisième chose, étudiez la parabole dans tous les passages correspondants. Quand Jésus parle, vous le savez dans la Bible, que les faits de la vie et du message de Jésus sont racontés de quatre manières, par quatre personnes différentes. On parle de Matthieu, on parle de Marc, on parle de Luc, on parle de Jean, les quatre évangélistes, comme on aime l'appeler, ou les quatre évangiles. Tout en sachant que le tout premier évangile est celui d'abord de Marc, puis après quoi les autres se mettent à écrire au fur et à mesure. Chacun d'entre eux raconte une histoire, des faits qui sont déroulés pendant ces trois ans-là, mais avec un objectif en tête, parce qu'il veut faire une démonstration quelconque. Les faits sont les mêmes, ne sont pas tordus, mais c'est raconté d'après un angle de vue et d'après le but qu'on veut, là où on veut mettre la lumière en particulier pour cela. C'est pourquoi on a gardé dans la Bible tous les quatre qui parlent des mêmes choses, sans craindre de pouvoir faire une répétition. Dans tous les cas, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que vous trouvez des types de répétitions, vous le trouvez aussi dans l'Ancien Testament. Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, Esdras raconte les mêmes histoires que Néhémie, des fois ils ont les mots exactement pareils. Alors, en fait, dans ces évangiles, Jésus-Christ, en train de parler des paraboles, ces mêmes paraboles sont racontées dans différents évangiles. Il est bon, avant de pouvoir résumer et de déterminer en fin de compte l'interprétation de cette parabole, de vérifier si elle n'est pas aussi racontée ailleurs, dans un autre évangile. Avant que vous puissiez y donner qu'une seule signification, vous comprendrez bien une signification éternelle, une signification générale de cette parabole, si vous allez la lire dans chaque autre passage où la parabole revient. C'est là que les Bibles avec des parallèles nous aident. Les Bibles, vous êtes en train de lire un texte et au début de ce groupe de textes, on met encore d'autres versets parallèles, des versets, des références, des versets qui ressemblent au même contenu. Dans votre Bible Second ou même dans vos applications, je suis presque sûr que vous aurez la même chose aussi dans l'application Ma Bible. Donc, vous êtes en train de lire une section et il y a une référence qui vous dit que la même section que vous lisiez se trouve aussi quelque part d'autre dans un autre évangile. Par exemple, dans le cas qui est le nôtre, Matthieu chapitre 13 que nous avons lu à partir de verset 18 à 23, Jésus en train d'expliquer la parabole. Vous retrouvez les mêmes choses dans Marc chapitre 4, verset 14 à 20. Vous retrouvez les mêmes choses dans Luc, chapitre 8, versets 11 à 15. Je répète, Matthieu 13, 18, 23, Marc 4, 14, 20, Luc 8, 11, 15. C'est juste pour vous donner de l'exercice tout de suite là, si vous voulez bien vérifier ce contenu-là. Alors donc, si vous voulez interpréter une parabole, il est sage de vérifier si cette parabole-là se trouve aussi répétée ou dite encore dans les autres évangiles. Petite astuce, vous trouverez souvent les paraboles de Jésus être répétées dans les trois premiers évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. L'évangile de Jean, vous trouverez très rarement des paraboles pareilles que ceux qui sont racontés dans les autres évangiles. Donc, étudiez la parabole dans tous les passages correspondants. Lisez ça dans les autres passages aussi. Prenez un petit temps. Faites cet exercice, lisez dans les autres passages. Alors, dernière chose, si vous voulez comprendre les paraboles, maîtriser très bien les paraboles, étudiez le contexte culturel de la parabole. Étudiez le contexte culturel de la parabole. Je vais lire pour vous une parabole ici. Et on va ensemble en découdre un peu ce qui va en sortir. Matthieu chapitre 21 cette fois-ci. Matthieu 21, du 1er au 14e verset. Restez avec moi. Matthieu 21, lisons ensemble. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. » Faisons un résumé jusqu'ici. Un roi, le royaume des cieux, n'oubliez pas, c'est le royaume des cieux, le titre, c'est le royaume des cieux qu'on étudie. Et on dit que le royaume des cieux est semblable à qui? Un roi qui donne des noces pour qui? Pour son fils. On a déjà deux personnages, le roi et le fils. Et c'est les noces qu'on est en train de donner. Et il a envoyé appeler donc des invités pour les noces, mais ne voulurent pas venir. Donc, je répète, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ne voulurent pas venir. Donc on a maintenant le roi, le fils, les serviteurs et les invités. Mais ils ne voulurent pas venir. Suite. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. » Venez aux noces. Maintenant, deuxième catégorie des serviteurs sont partis et on insiste pour faire venir les conviés. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Regardez bien, les invités ne viennent pas à la fête et ils continuent leur vie d'habitude. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, et les tuèrent. Voilà, les serviteurs sont morts. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr le meurtrier et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Vous voyez? Souvenez-vous, ce n'est pas que les conviés ont juste refusé et ont saboté. Ils se rendent compte qu'ils n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, voyez, les carrefours, et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Les carrefours, les places bouillantes où il y a beaucoup de gens. C'est là-bas qu'on est censé aller, aller. C'est là-bas que se fait l'évangélisation. Quand on rassemble des troupes, c'est pas par plaisir de foule, c'est le but. On est en train de chercher là où on va trouver des gens en nombre. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez, tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. C'est ça notre mission. Ce n'est pas de descendre vers le plus gentil, c'est de descendre dans les carrefours, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Waouh! Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lieux. » Cette parabole est fou riche, tellement riche. Je ne voudrais pas entrer dans les détails ici, on ne va pas finir. Mais la raison pour laquelle je lis cette parabole, c'est pour démontrer le point selon lequel, lorsque vous lisez le parabole, vous devez tenir compte du contexte culturel. Résumé, on a un roi qui a organisé une fête pour son fils. Déjà, n'oubliez pas le contexte dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas dans nos cultures actuelles. Dans la Bible et dans les cultures bibliques, c'est aux parents d'organiser une fête pour les enfants, de le marier leurs enfants. C'était de l'honneur. Très peu de cultures le font encore aujourd'hui, mais l'honneur parental consistait à organiser cette noce pour, ou ces noces pour les enfants. Donc, ici, il s'agit d'un roi, c'est-à-dire celui le propriétaire de la nation, et qui organise donc la fête pour son fils. Son fils. Et qu'est-ce qui se passe? Il demande à ce qu'on ait appelé les convives qui étaient appelés. Il y avait déjà des convives, il y avait déjà, je vais presque dire, des gens qui avaient l'invitation, les invités, ceux qui devaient venir, qui étaient connus d'avance, ceux qu'on avait déjà dit, vous viendrez. On va les appeler, on leur dire, c'est bon, on a tué le veau, tout est prêt, venez. On a envoyé des serviteurs. Premier loup, il dit, non, on ne va pas venir. On envoie un deuxième lot de serviteurs, dit, mais écoutez, le roi dit que tout est prêt, venez. Non seulement que les gens ne font pas cas de tout ça, chacun s'occupe de ce qu'il veut, mais en même temps, d'autres prennent le courage d'attaquer les serviteurs et de les tuer. Ça montre clairement que non seulement qu'ils ne veulent pas venir, mais ils sont contre. Ils tuent les serviteurs envoyés par le roi. Oh, le roi s'énerve. Il dit non. Il envoie son équipe. L'équipe descend, son armée descend, il tue ce meurtrier qui a tué ses serviteurs et il brûle la ville. Mais le roi n'a pas fini son projet. Son projet, c'est de faire une fête pour son fils. Alors, il dit encore une autre catégorie de serviteurs. Il dit, vous maintenant, allez. Allez là-bas. Allez dans les carrefours. Il leur dit où aller cette fois-ci. Les endroits où vous trouverez beaucoup de gens, dans les lieux publics, dans les marchés, dans les coins où les gens viennent en grand nombre. Oh, Seigneur. Rien qu'à parler de ça, ça fait mal au cœur. Quand je regarde où nous allons maintenant, il n'a pas dit, allez là où tout le monde sera calme. Il dit, allez là où vous trouverez drogués, commerçants. La Bible précise, il dit, là où vous trouverez bon et mauvais. Allez là-bas, allez. Et ramenez des convives ici pour moi. Les serviteurs, la Bible dit, sont partis et ils ont ramené. Et la maison, la fête était pleine, remplie. Vient un moment en particulier où le roi, justement, passe. Il vient vérifier. Il voit qu'il y a quelqu'un là-dedans, mais qui n'a pas les habits qu'il faut. Il n'est pas habillé comme il se doit. Et puis il dit, mon ami, comment tu es ici? Comment tu es? Écoute ce que la Bible appelle. J'aime bien comment le roi l'appelle. Le roi, il aurait pu l'appeler monsieur, oh vous, sujet. Il a dit, mon ami, comment êtes-vous entré ici? Et la Bible dit que cette personne a resté la bouche fermée. Mon ami, comment êtes-vous entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Donc, elle n'avait pas d'argument, elle ne savait pas quoi dire. Alors, le roi ordonne qu'on le prenne, qu'on les lie et qu'on le jette dehors. Et on précise ce qui va se passer dehors. Il y a des grincements de dents et des pleurs. Jésus conclut maintenant. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lieux. Appelés, on a commencé à appeler depuis longtemps. Premier lot de serviteurs ont appelé, deuxième lot de serviteurs ont appelé. Finalement, ceux-là, on les a même brûlés, on les a rejetés. On a dit, maintenant, plus question de ceux que j'avais choisis avant, quiconque. Voilà, c'est pourquoi Jésus est fort dans sa terminologie quand il est en train de parler, dit, quiconque croit en lui. Ce n'est plus question de ceux qui étaient invités avant, parce qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont tué les prophètes qui avaient le message. Maintenant, quiconque, dans les carrefours, quelque part là où quelqu'un comme moi était en train de vivre dans mes péchés, quelque part, il me prend, nous tous. Il dit, venez, bon ou mauvais, venez, entrez dans ce royaume. Maintenant, en entrant dans le royaume, tenez compte de quelque chose de fort. C'est là ce que je vais démontrer ici, d'éléments culturels. Le roi entre, il se rend compte qu'il n'est pas bien en habit de fête. Allez, humainement parlant, si on ne comprend pas la culture, les contextes culturels, on va se dire, mais allez, peut-être que c'était un pauvre dans la rue. Il n'a pas d'habit de fête. Pourquoi pourquoi le roi se fâche contre lui et les jette? Même le texte lui-même vous montre, sans connaître d'abord la culture, les textes lui-même vous montrent que le roi a bel et bien sous-entendu que cette personne devait être en capacité d'avoir les habits de noces. Voilà là où vient l'élément culturel. En effet, à cette époque, en Israël, dans les cultures de l'époque, lorsque le convive de ce rang vous invite, l'hôte de ce rang vous invite à sa fête, à l'entrée de la fête, on leur donnait la tenue de fête. On donnait à tout le monde nos robes, et très souvent blanches, qui étaient la tenue de fête. Vous vous habillez finalement, vous tous, dans un même thème. Comme je vois beaucoup de jeunes mariés aujourd'hui, quand ils invitent, ils disent « thème de mon mariage, bleu ». Vous devez aller trouver du bleu. Mais par contre, eux, à l'époque, à l'entrée, quand vous venez, on vous donnait cela. C'était gratuit, c'était distribué. Et le roi est donc choqué. « Mais tu, comment est-ce possible? Comment toi, tu es entré ici? Tu veux... Comment ?» Parce que porter l'habit que te donnait le hôte, c'est une façon de l'honorer et de montrer que j'étais honoré, j'ai fait ce que tu attendais de moi, je me suis habillé comme tu voulais. En fait, ce qu'il est en train de démontrer ici, dans cette parabole, il dit, celui qui est invité gratuitement et qui est en train de dénigrer les faveurs qui lui sont accordées, recevra la même punition que ceux qui ont refusé l'invitation à la base. Ceux qui ne sont pas venus et celui qui est entré sans avoir respecté ce qui lui a été donné, les deux-là vont subir la même chose. Ça veut dire que vous à qui la parole a été annoncée, vous êtes entré dans le royaume de Dieu, vous êtes entré dans le royaume de Christ, vous fréquentez l'Église, vous continuez à aller, mais l'habit de grâce et de sanctification vous a été donné. Vous avez refusé de vous revêtir de Christ, de vous revêtir de l'homme nouveau. Quand Dieu fait un tour dans son royaume, il regarde. Sachez-le que le dernier jour, le moment de la fête, quand le royaume qui est viendra, parce que c'est ça la réalité du royaume de Dieu, il est et il arrive. C'est pourquoi la fête se passe au même moment. Au même moment, la personne est déjà à l'intérieur de la fête et on la fait sortir. C'est pour dire que nous sommes déjà dans ce royaume, nous sommes déjà à l'intérieur et en même temps vient la grande rétribution. Et on dit qu'on le fait sortir et puis maintenant il est dehors là où il y a grincement dedans, ainsi de suite. Remarquez que si vous n'aviez pas compris qu'à leur époque, on donnait déjà l'habit à l'entrée, vous allez vous dire pourquoi on a condamné cette personne. C'est simplement parce que cette personne a cru qu'elle pouvait le faire sans respecter les principes. Puisqu'elle a abusé de la grâce du roi. Un, tu n'étais pas invité. Deux, on t'a pris n'importe où. Trois, par-dessus tout, on t'a donné l'opportunité de faire le minimum de respecter le roi en portant un habit qu'il t'a donné gratuitement. Et ça, tu vas refuser une telle faveur. Cette parabole est très forte. Que Dieu nous aide à réellement prendre au sérieux la grâce qui nous a été accordée. Et j'espère que ces quatre premiers principes vous ont déjà aidé. Demain, on va en continuer, on va en apprendre trois autres. Ça va devenir bien et fantastique de lire justement les proverbes, les paraboles. Alors, voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.